Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père, en présence du dit père, par ce dernier jour du mois d'avril. On peut dire que avril nous a vraiment fait découvrir jusqu'au bout qu'il ne fallait pas se découvrir d'un fil.
Absolument.
Et là, on finit sur les pieds mouillés, avec un parapluie, l'autre qui ronfle parce qu'il se dit dans le doute, je vais quand même conserver mon bon rythme.
Oui.
On a quand même eu le mois d'avril le plus pitoyable.
Il paraît que ça risque d'amener à des récoltes épouvantables, parce que paraît que toutes les champs sont noyés, que les trucs peuvent pas pousser. Donc avril ne te découvre pas d'un fil. Oui, en mai, fais ce qu'il te plaît, mais...
Non, bah là, il va falloir qu'il redouble de force parce que on a été mis à contribution.
Hein.
Là, on en a vraiment gros.
marre d'avoir les pieds mouillés.
Alors, aujourd'hui, pour passer du proverbial Coca-Light, on va essayer de refaire un petit tour sur le portefeuille de l'Institut des Libertés parce que pour la première fois depuis 4 ans, Charles va changer une position. Alors, c'est assez drôle parce que dans les commentaires que l'on peut récolter soit sur notre site institutdeslibertés.org, soit sur Twitter, certains d'entre vous disent des choses intéressantes comme « si je comprends bien, il faut vendre toutes les actions et se placer en dollars, si je comprends bien ». C'est-à-dire que on a des, c'est drôle parce qu'on dit des mots et les gens comprennent l'inverse. Et là, ce que vous devez essayer de comprendre, donc Charles va vous expliquer, et il va aussi vous expliquer quand il dit « acheter du yen », ce qu'il veut dire par là. Est-ce que ça veut dire un ETF? Est-ce que ça veut dire acheter...
En tout cas, ça veut pas dire les billets, hein.
Ça veut pas, oui, mais parce que, il va falloir le dire, parce que des gens disent, est-ce que je dois acheter physiquement du yen à mon bureau de change? Voilà. Est-ce que c'est un ETF? Voilà. Donc, tu vas expliquer tout ça au fur et à mesure.
Voilà.
Et pour faire ça aussi, on va devoir revenir sur une notion qui est extrêmement importante et sur laquelle on reviendra à l'Université de l'Épargne, c'est la parité des pouvoirs d'achat.
Voilà.
Voilà. Donc, recommençons dès le début. Re-explique aux gens que ces sociétés... Enfin, comment était fait ton portefeuille idéal ?
Alors, c'est une notion importante. Mais avant, je voudrais peut-être dire un petit mot, parce que, comme Emmanuel, je lis les commentaires qui sont faits. Bon, il y a les commentaires habituels que nous sommes payés par les Rothschild, ce qui n'est pas vrai, parce que j'attends toujours mon chèque et je ne suis toujours pas payé par les Rothschild.
Ni par les Rothschild, ni par les Atlantistes, ni par Poutine, ni par... C'est drôle d'ailleurs...
Ni par les Chinois aussi.
Ni par les Chinois. C'est drôle d'ailleurs dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Oui, c'est un Atlantiste pro-Poutine ». Tu dis « Vous n'avez pas l'impression au bout d'un moment que ça ne se réconcilie pas, vos trucs ?» Non, mais
juste,
allons-y.
C'est juste un homme qui essaye de réfléchir tranquillement par lui-même. Vous voyez, ça, c'est une...
Et encore une fois, on s'en fout de Poutine, mais alors d'une force, vous imaginez même... Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, mais bon...
Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un qui m'a fait une remarque très, très intéressante parce qu'elle montre, sans même qu'il s'en rende compte, l'étendue des idées fausses. Je n'en veux pas du tout, ça, et au contraire, je fais un commentaire dessus. Il nous dit, c'est rigolo parce que vous dites libéraux et vous cherchez à aider les autres. Vous cherchez à transmettre ce que vous savez, etc. Et donc, cet homme pense que, ou cette femme, pense que le libéralisme, c'est de l'égoïsme. Mais pas du tout. Le libéralisme, c'est de chercher comment vous pouvez devenir celui que vous devez être, c'est-à-dire le projet qui est pour vous. Chaque homme a un projet, et c'est à lui de l'accomplir, et s'il l'accomplit, il est heureux. Et donc, le libéralisme, ça a été le moment dans l'histoire... où ceux qui avaient gagné beaucoup d'argent, ou ceux ou les autres d'ailleurs, parfois comme Mère Teresa qui n'avait pas un rond, enfin qui était en Inde là-bas, se dévouent pour les autres librement. C'est-à-dire que se dévouer pour les autres, c'est prendre de son temps pour aider les autres. C'est pas gagner le pouvoir et augmenter les impôts sur ces salauds de riches. Ça n'a strictement rien à voir. C'est le contraire du libéralisme. Le libéralisme, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'individualisme. Comment je peux me développer de façon harmonieuse pour arriver à ce que je veux faire? Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais fait pour être professeur. J'ai été par hasard dans les métiers de la finance, mais en même temps, ça m'a appris d'apprendre plein de choses. Et dans un endroit libre, puisque dans la finance, heureusement... mais c'est en train de se terminer. Il n'y a pas de, on n'est pas forcé. Si vous voulez, vous prenez vos décisions. Si vous vous trompez, vous prenez une claque et puis voilà. Mais on ne vous force pas à aller dans un endroit où vous êtes certain d'aller prendre des claques. Quoi que ça, avec les ESG et tout ça, ça devient de moins en moins vrai. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est arrêter de penser que le libéralisme, c'est l'égoïsme. C'est individuellement, vous choisissez de faire ce que vous voulez, et si vous, votre but, c'est de faire le bien autour de vous, vous le faites, mais librement, vous n'êtes pas forcé de le faire. Ce que dit ce brave Thomas Sowell, que je cite dans mon livre souvent d'ailleurs, il disait, je n'ai jamais compris pourquoi, si je refuse, je suis pas très content si on prend l'argent que j'ai durement gagné, c'est être égoïste, et si quelqu'un me le prend, en me tapant dessus, c'est être généreux. Je veux dire, je vois pas en quoi aller taper sur la figure d'un type qui a gagné de l'argent nettement pour lui prendre, c'est généreux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça. Donc encore une fois, arrêtez une fois pour toutes de confondre libéralisme et égoïsme. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Alors la deuxième, si je voulais vous dire aussi, si vous voulez, c'est que beaucoup de gens me posent la question, mais alors, si je dois acheter des actions, est-ce que je ne devrais pas plutôt acheter des actions en yens? Et ce que j'essaye de faire ici avec Emmanuel, et depuis un petit moment, et c'est ce qu'on va faire encore plus dans l'université de l'épargne, c'est de vous montrer qu'un portefeuille, c'est un ensemble. Donc avant de réfléchir si vous devez avoir des actions en yens, etc., je me dis combien faut-il d'actions en pourcentage dans le portefeuille et quel genre d'actions aujourd'hui. Bon, on arrive à la conclusion qu'on en veut 50%, ce qui est une bonne chose, et que les actions, on a ce qu'on a à Paris. Donc, les 10 qu'on a sélectionnés, qui se débrouillent pas plus mal qu'autre chose. Et donc, si j'achète des actions en yens, je vais changer l'équilibre de mon portefeuille d'une façon que je ne souhaite pas en ce moment, c'est-à-dire accroître le risque action. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est passer de quelque chose qui est un petit peu volatile, comme les obligations chinoises, à quelque chose qui est encore moins volatile.
Alors, pourquoi trouves-tu que les obligations chinoises seraient devenues volatiles? J'ai vu leur progression, c'est-à-dire elles ont performé, puis elles sont un peu redescendues, et là, elles ont remonté, puis elles plateauent.
Voilà, d'abord parce qu'en plus, on est passé, mettons, pour faire simple, de 4% il y a 4-5 ans, à 2% aujourd'hui. Donc,
la rentabilité d'une obligation chinoise n'est plus qu'elle était, et elle semble être en plateau depuis un moment.
D'abord, elle semble être en plateau depuis un moment. Alors, il est possible que maintenant, on gagne de l'argent sur le yuan qui montrait par rapport à l'euro, mais à ce moment-là, si je cherche à jouer la monnaie, il y en a une qui est beaucoup plus sous-évaluée que le yuan, qui est le yen. Donc, ce que je cherche à faire, c'est à réduire la volatilité du portefeuille en mettant plus de cash et dans un endroit qui est complètement sous-évalué aujourd'hui.
Alors, tous les journalistes français, cette semaine, ils sont allés de leur analyse économique, depuis les tribunes de Roland-Garros. Je dis ça parce que c'est souvent ma métaphore pour dire que dans la vie, dans les analystes économiques, c'est un peu comme les joueurs de tennis, il y a ceux qui sont sur le court et il y a ceux qui sont toujours dans les gradins. Donc les analystes économiques qui toute leur vie l'ont fait depuis le court, les gradins et qui n'ont jamais joué de leur vie, ça me fait un peu marrer. Et donc tous ces gens-là disent oui, on est en train d'assister en direct à la fin d'une grande monnaie qu'est le yen.
Oh mon Dieu!
Ah oui, ça allait partout.
Ça allait partout. Bon, écoute, encore une fois, ce que je dis toujours aux gens, c'est... Je me suis laissé dire que les journalistes étaient mal payés. C'est vrai? Je sais pas.
Oui.
Eh ben, je trouve que...
C'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup. Quand beaucoup...
Et donc là, tous les trucs que je lisais en disant oui, c'est la première des grandes monnaies qui va sauter, c'est le début de la fin. Et j'ai beau leur expliquer que d'après l'analyse de Grand, l'operating system va très bien et que...
Mais ça va pas mal du tout. Et les Japonais, les gens s'en rendent pas compte, mais ils ont en position extérieure nette, c'est-à-dire les actifs étrangers détenus par des Japonais, c'est à peu près à 60% de leur PIB. C'est-à-dire, c'est absolument gigantesque. Donc, il se passe un phénomène curieux.
La veuve de Watanabe.
Madame Watanabe, elle a du pognon à l'extérieur monstrueux. Mais ils ont tellement de pognon que c'est la seule pays que j'ai connue dans l'histoire. Peut-être l'Angleterre au 19e, je ne suis pas sûr. Mais c'est le seul pays dans l'histoire, si leur monnaie baisse, la population s'enrichit. Parce que...
Oui.
Ça veut dire que leur position extérieure monte en valeur. Donc, c'est le seul pays dans l'histoire, quand leur monnaie baisse, ils exportent plus. Et en plus, ils deviennent plus riches en même temps. Donc, il y a quand même un phénomène assez rigolo. Et en fait, aujourd'hui, si vous prenez par exemple une monnaie qui devrait disparaître comme l'euro, je crois que la France doit avoir une position nette qui doit être à moins 30%. Donc, si notre monnaie baisse, on va s'appauvrir, quoi. Donc voilà, ça arrive toujours à ce dont on a souvent parlé ici. Moi, ça fait 50 ans que j'essaye de comprendre ce que c'est qu'une monnaie. Je suis content de savoir qu'il y a une série crétin sur les réseaux sociaux ou sur le gradin de Roland-Garros qui explique à un joueur professionnel comment faire des coups droits liftés, quoi. Tu vois, que lui, il le fait pas bien, quoi. Donc, je reviens à ce que j'ai souvent dit ici, lire la presse financière, c'est dangereux pour votre fortune. Il y a si ces types étaient bons...
Bah, ils géreraient du pognon pour de vrai.
Ils géreraient du pognon pour de vrai, s'ils sont là. Mais par contre, ils ont une idée très nette de ce qui est bien et ce qui est mal.
Oui.
Ça, j'y peux rien. Moi, j'ai pas cette idée très nette. Hein. J'ai encore reçu... J'ai écrit du bien, j'ai dit du bien d'un certain nombre de trucs en Chine récemment, et il y a deux ou trois personnes qui m'ont écrit en me disant « Mais vous soutenez un régime communiste ?» Je prétends qu'aujourd'hui, la liberté d'entreprendre est beaucoup plus réelle en Chine qu'en France. Donc la question, c'est...
Non, mais ça, tu l'as toujours dit. Tu as toujours dit, écoutez, vous, encore une fois, vous avez votre affect et vous pouvez tout à fait choisir
de ne pas
mettre votre pognon. Moi, je vous dis juste que je n'ai pas cet affect quand je gère du pognon. Je regarde les positions. Et donc, oui, voilà. Mais bien sûr, faites-le.
Si vous préférez perdre 25% que gagner 25%, c'est votre droit le plus strict. Moi, je n'ai rien à dire. Hein. Je suis sûr que vous êtes très content d'avoir perdu 25% sur les obligations française.
Voilà, chacun fait comme il veut.
C'est son fric. Et c'est le but dans l'industrie, dans l'université de l'épargne, ça va être d'apprendre à gérer votre fric en fonction de vos affects. Et puis vous apprendrez au bout d'un certain temps que il faut pas trop se laisser aller à ses affects, parce que
patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
Voilà, exactement. Il faut pas que vous tombiez amoureux ou que vous commenciez à haïr tel ou tel placement, parce qu'à ce moment-là, vous vous limitez extraordinairement.
Alors, est-ce que tu veux parler un petit peu du cours de change entre l'euro et le yen?
Alors, on y vient. Par exemple. Alors, il y a à peu près 4 ans, on s'est dit, on va mettre 33% du portefeuille en obligations chinoises. Alors, ça n'a pas été très facile à acheter, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors, on va faire un petit... vous pouvez essayer, dans un cas comme celui-là, de trouver...
Des ETF.
Alors, ça veut dire en anglais Exchange Traded Fund, c'est-à-dire que ce sont des gars qui ont monté un portefeuille qui vous donnera la rentabilité, mettons, du 10 ans chinois. C'est-à-dire que ça restera toujours à 10 ans. Quand une obligation arrive à 9 ans, ils la vendent et ils rachètent une autre à 10 ans, et ainsi de suite, pour que le portefeuille soit toujours à 10 ans. Donc, voilà. Et ça, en principe, c'est coté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ainsi dire. Les droits de gestion sont infinitésimales parce que c'est fait par des ordinateurs.
C'est 1%.
C'est 0,1. C'est tout petit. Et vous achetez ça en bourse et c'est liquidable. Vous l'achetez à tout moment, aujourd'hui ou demain. Et donc, vous avez aujourd'hui des centaines d'ETF qui sont cotés. Et vous pouvez...
Ça a des codes ISIN.
Et vous pouvez trouver ça. Alors, ceux qui en font, c'est Amundi, c'est BlackRock... C'est State Street, vous en avez un paquet comme ça dans le monde. Il y a aussi, il y a toutes les grandes maisons de gestion qui font des ETF. Et donc, il existait quelques ETF obligations chinoises, mais enfin, c'était pas si facile à trouver. Vous pouvez aussi trouver des gens qui ont ce qu'on appelait autrefois des SICAV, c'est-à-dire des gens qui gèrent des obligations chinoises et qui essayent de faire mieux que le 10 ans, etc. d'avant. Ça, c'est un fonds, mais c'est plus difficile à acheter. En plus, si vous voulez, il y a des frais de gestion, c'est des frais de gestion. Et puis, c'est pas aussi liquide. Hein. Vous pouvez pas le vendre à tout instant.
Non.
C'est pas coté sur le marché en temps réel, quoi.
Non.
Donc moi, pour les concepts qu'on va développer dans l'université de l'épargne, on recommandera presque toujours des ETF et pour ainsi dire jamais des fonds.
Mais pour l'instant, on peut pas véritablement. Enfin, on pourra parler de
on
certains
dire, voilà
comme ça.
Voilà les ETF qui existent.
Voilà les ETF qui existent, mais on pourra pas vous dire achetez celui-là. On pourra vous en présenter parce qu'on a le droit de présenter, de parler de choses.
On parlera de choses. On dira il y a un ETF qui est émis par Amundi, un autre qui était mis par State Street, et puis un troisième qui était mis par je sais pas qui, et puis à vous de choisir, regardez celui qui vous va le mieux, celui qui est le moins cher. Bon. Donc, les obligations chinoises. Donc, celui qui aurait acheté un ETF obligation chinoise en le 1er janvier 2020, pourquoi le 1er janvier 2020? Parce que ça devait être février ou mars, les marchés se pétaient la gueule, et j'ai dit aux gens, ben, on va commencer le 1er janvier 2020 parce que je savais qu'il y avait une gamelle juste derrière. Elle, elle était en cours. Ce qui permettait de dire, vous, quel que soit le moment où vous commencez à gérer professionnellement votre portefeuille, vous vous en foutez. Parce que, vous voyez, on a déjà rattrapé au-delà la gamelle. Donc, faut, je ne l'ai pas pris à un plus bas du marché parce que ça, ce serait tricher. Je l'ai pris quasiment à un plus haut du marché. Donc, pour montrer que même si on commence au mauvais moment, ça n'a aucune importance. Et cette obligation chinoise, qui était à 120, si c'était le cours, quoi, ben non, ça, pardon, là c'était en euros, le cours de change euro-yen est passé de 120 à 168. C'est-à-dire que ben, l'euro est monté de je ne sais pas combien, de 35% vis-à-vis du yen. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous aviez un euro, vous pouviez acheter pour 128 de produits japonais il y a 4 ans. Aujourd'hui, si vous avez 1 euro, vous pouvez acheter pour 168 yens. C'est-à-dire vous pouvez acheter...
Oui, donc c'est vraiment le moment de partir, si toutefois, en vacances au
d'aller
Japon...
Faire son ailleurs, d'aller faire son marché au Japon, quoi.
Voilà, donc parce que les chambres d'hôtel seront proportionnellement beaucoup moins chères, enfin...
Alors,
qu'on peut acheter.
Alors, il y a un truc... Donc, le yen a beaucoup baissé, et c'est très étonnant, parce qu'il a des comptes courants excédentaires, vous savez, c'est la balance commerciale, les comptes courants, qui font à peu près 4% du PIB.
Alors, est-ce que tu penses que, comme la Thaïlande en son temps ou d'autres pays asiatiques dans les années 2000, ils s'amusent à tenir leur monnaie basse pour tenir les exportations et ce faisant se payer l'Allemagne?
Ben, c'est pas du tout exclu, mais ça, c'est un avantage...
accessoire.
Accessoire, mais il faut savoir que...
Mais pourquoi leur monnaie est-elle si basse d'un coup, alors que notre euro est magique par ailleurs?
Alors, ce qui se passe, l'une des raisons, aussi curieux que ça paraisse, c'est que la population japonaise vieillit très vite, hein, on le sait.
Et ils ne font pas venir d'immigration. Et
ils sont en train d'ouvrir un peu.
Un petit peu aux Coréens, mais alors il faut vraiment montrer patte blanche.
Exactement.
Et même ceux qui viennent pour travailler toute leur vie, on leur dit non, finalement, vous pouvez repartir chez vous.
À la fin, oui. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc Madame Watanabe, la
digne veuve de Carpentras.
La digne veuve de Carpentras locale, qui doit vivre à Kyoto ou je ne sais pas où. Elle se dit, mais je peux pas investir dans mon pays, par exemple dans des obligations, parce que ben, il y aura plus personne d'ici 30 ans pour me payer, me rembourser mon obligation. Donc,
ce qui n'est pas un mauvais calcul. Et si ça serait bien, ça serait bien qu'on le fasse en France sur la sécurité sociale et les retraites, mais visiblement, les gens ont choisi.
Non.
Voilà,
donc c'est Mme Watanabe, elle se dit ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va acheter des obligations en Australie.
Elle se dit, la population...
Ou au Mexique, où il y a des... Et puis les taux d'intérêt sont élevés, elle touche du zéro au Japon. Et si elle va en Australie, elle va toucher du 4. Et si elle va au Mexique, elle va toucher du 7 ou du 8. Donc elle est très contente, Watanabe. Donc il y a des montants de pognon absolument monstrueux qui sortent sans arrêt du Japon. Et c'est pour ça que le yen baisse. Mais c'est pas comme si ces montants monstrueux servaient à financer, je sais pas, des transferts sociaux. Là, ils achètent des actifs à l'étranger.
En fait, plus le Japon devient riche, plus les transferts vers l'étranger augmentent.
Et voilà.
Et plus le yen baisse.
Et plus le yen baisse, qui est le paradoxe. Jusqu'au moment où les rentrées qui viendront de ce qu'ils ont acheté... Comme ça, parce qu'ils vont, ils touchent
des
dividendes.
Ils vont les réinvestir, ils vont faire des intérêts composés.
Ils vont faire des intérêts composés, mais à un moment ou à un autre, ils vont devoir vivre sur ces dividendes.
Oui.
Donc, ils les changeront en yens. Et au moment où ces rentrées...
Mais ça peut prendre 10 ans.
Ça peut prendre un temps fou. Mais au moment où ces rentrées deviendront supérieures sorties, le yen va se mettre à monter comme une fusée.
Mais ça peut prendre 10 ans, parce que là, Mme Watanabe, elle a peut-être 40 ans. Ou 50,
oui, et elle va plutôt 70.
Elle a plutôt 70.
Oui, donc à un moment ou à un autre, elle va avoir besoin de son pognon.
Ouais.
Et en même temps, ils ont de tels montants aujourd'hui, je te dis 40% du PIB, donc à un moment ou à un autre, ça va. Alors, Comment savoir, à partir de quel moment, établir mes positions ou yennes, puisqu'en effet, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et ça, j'ai aucune idée.
Alors, en plus, ils vont pas tous le faire ensemble, ils sont pas complètement crétins. Enfin, si, ça peut justement. Il y en a peut-être un qui va se dire, là, et puis ça va monter, les autres se disent, oh, dis donc, je préfère avoir un bon taux de change. Et puis tout à coup, tout le monde se met à.
À
vendre des positions et à rentrer sur le yen au moment où il est pas trop cher.
À se dire, à couvrir les positions extérieures, et à ce moment-là, voilà. Alors, comment ça marche, les monnaies? Alors, on arrive au deuxième graphique, et on va vous parler quelque chose dont je vous ai souvent parlé ici, qui est la parité des pouvoirs d'achat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mettons, vous prenez le Japon et les États-Unis, et vous vous dites, dans le fond, le prix d'une Toyota doit être le même dans les deux pays, puisqu'ils font du commerce ensemble,
ouais, bien sûr.
Ajusté pour le coût de transport, quoi.
Ouais.
Donc, alors tu prends une Toyota, ou il y a l'économiste qui publie, je crois, chaque semaine ou chaque mois, l'indice McDonald's. Parce que le McDonald's, c'est le sandwich.
Oui, bien sûr, je sais, je le connais, cet indice.
Tes enfants adoraient quand j'étais petite. Hein, j'avais le McDonald's, c'était quand même.
Ah bah c'est, écoute, honnêtement, pour 4,95€, tu as le Happy Meal avec des frites, what's not to like, des chicken nuggets avec des petites sauces, un jouet et une pomme pote.
Exactement. Donc, le prix du McDonald's doit être le même. Mais aujourd'hui, le McDonald's à Paris est deux fois plus cher que le McDonald's à Tokyo. Mmh. Donc ça veut dire que le yen devrait doubler pour qu'on retrouve la parité des pouvoirs d'achat, qu'avec les 5 euros, tu puisses acheter qu'il doit faire, attends, bouge pas, 5 euros, ça doit faire à peu près, l'euro est à 160, ça fait 6, 30, ça fait 158. Donc pour 800 yens, ça coûte 800 yens alors qu'on devrait en coûter 400. Donc tu dois, si on repasse de 800 à 400, toi tu doubles si tu t'es mis en... Voilà. Alors là, ce que je vous montre, c'est donc, ça c'est la théorie et la pratique, comme dit, vous avez la ligne rouge ici, dans le graphique numéro 2, yen dollar et parité des pouvoirs d'achat, qui va apparaître maintenant sur vos graphiques. Ben, ce que vous avez, c'est l'indice, c'est vous divisez l'inflation japonaise, l'indice des prix de détail, par l'inflation américaine. Et donc, vous voyez, si la ligne rouge baisse comme ça, ça veut dire que l'inflation américaine a été toujours plus élevée que l'inflation japonaise. Pour être parfaitement honnête, ça fait à peu près 20 ans qu'il n'y a pas eu d'inflation au Japon. C'est-à-dire qu'on est à zéro, quoi. Tu as à peu près le même niveau des prix qu'il y a 20 ans. Alors qu'aux États-Unis, tu as eu une inflation qui a fait baisser de moitié.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et vous voyez, la ligne bleue, c'est le cours de change entre le dollar et le yen. Donc vous voyez qu'on revient toujours sur la parité des pouvoirs d'achat. C'est-à-dire que les marchés arbitrent. Ils sont là, ils font leur boulot d'arbitrage. Et en bas, c'est le ratio entre la ligne rouge et la ligne bleue. Donc vous voyez qu'on est autour d'une horizontale. Et que, dans le fond, quand vous êtes les lignes de ligne jaune, c'est deux écarts-types, c'est-à-dire qu'ils se produisent à peu près 5% du temps. Donc quand t'es au-dessus ou en-dessous, c'est un truc assez rare, quoi. Et aujourd'hui, on est quasiment à 4 écarts-types, ce qui se produit jamais. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un truc qui se produit une fois sur tous les 10 000 ans, quoi. J'en sais rien, mais... Et la ligne horizontale, la ligne poitiers rouge, c'est la parité des pouvoirs d'achat où tu retournes toujours vers elle.
D'accord.
Donc aujourd'hui, tu te dis, bon, j'achète mon yen à 0,42, et logiquement, il devrait être à 1.
Oui.
Donc, je fais si j'attends, je vais doubler. Mm-hmm. Mais si je double en 4 ans, ça me fait quasiment des 18% par an, sur une position en cash. Qu'est-ce que j'ai à m'emmerder à avoir des actions? Tu vois, c'est, je me dis, mais c'est ce qu'on appelle un truc qui se produit une fois tous les... Et je dis, ben, je vais mettre 33% du portefeuille dans ce truc-là, parce que sur ce truc-là, je peux doubler en 4 ans, alors qu'avant que je double sur les obligations chinoises, il fera chaud, hein, ça m'étonnerait, quoi. Tu vois, donc c'est juste un truc de dire, ben, vous êtes au Japon, et vous ne pouvez pas acheter des McDonald's pour les vendre en France, hein, mais vous pouvez acheter la monnaie qui est sous-évaluée, qui vous permettra d'acheter le McDonald's deux fois moins cher dans 4 ans.
Alors, tu peux acheter la monnaie, mais il faut que les gens qui achètent la monnaie pensent le temps long à cause de...
C'est ça, ça c'est vraiment une position d'attente. Je me dis, bon, j'ai...
Et qu'ils ne se disent pas tout de suite, je vais chipiler et je vais
me... Non, c'est tout le contraire. Ouais, alors, ouais. Ça, c'est un truc très important ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui nous ont contactés un petit peu sur cette histoire d'université de l'épargne. Et je sentais qu'ils étaient très inquiets parce qu'ils pensaient qu'on allait les mettre un écran en face d'eux, qu'il allait falloir qu'ils chipillent, qu'ils vendent des trucs toutes les 30 secondes. Vous vous rendez compte que dans ce portefeuille que je tiens pour vous, c'est la première grande opération qu'on fait depuis 4 ans. C'est pour vous dire si on va faire la fortune des intermédiaires. Hein. C'est pas les commissions qui vont bouffer votre truc. Hein. Bon, on fait du rebalancing, mais ça c'est normal. Et donc, je veux dire, c'est que c'est tout, gérer de l'épargne, c'est tout sauf du spiel, c'est tout sauf du trading. Vous êtes là, vous réfléchissez, vous vous faites un outil, vous bâtissez une voiture et vous la conduisez prudemment sur une route où il risque d'y avoir des tas de trous. Donc vous n'avez pas une Ferrari ou une Lamborghini qui va se casser s'il y a un trou. C'est un machin qui est fait pour passer au travers du feu et ressortir de l'autre côté.
Oui, c'est notre proverbiale Lada.
C'est la Lada, vous savez.
On sait pourquoi elle roule. Elle a 4 roues, un moteur qui fait vroom vroom et qui est bien électrique. Il n'y a rien qui est connecté.
Il n'y a rien d'électronique.
Et ça fait vroom vroom.
Et c'est pas confortable et ça fait du bruit.
Et
c'est pas bon à voir.
Et même s'il fait moins 20 degrés, elle démarre.
Elle s'en fout. Voilà.
Elle s'en fout.
Donc c'est un truc qui n'est pas beau, mais qui va vous amener du point A au point B.
Voilà.
Sans avoir tourné. Donc. Alors, si maintenant je regarde, et on passe à l'euro, parité des pouvoirs d'achat Allemagne, Japon et cours de change, là, c'est simplement la ligne du bas du graphique précédent, mais cette fois-ci, j'ai mis non pas le dollar, mais le Deutsche Mark. Et alors, vous voyez quelque chose de très intéressant, c'est depuis que 1995-96, finalement, vous voyez que la ligne noire, qui est le rapport des deux taux d'inflation, c'est assez à plat. C'est-à-dire que quelque part, le Japon a une inflation très faible, mais l'Allemagne aussi, jusqu'à tout récemment.
Oui. D'ailleurs, ils détestent l'inflation. On le sait que les Allemands détestent l'inflation. Ça leur a laissé un goût amer de l'entre-deux-guerres.
Ça va leur laisser un goût amer ce coup-là aussi. Hein.
Oui.
Ça va y aller. Et comme dit toujours ton frère en rigolant, quand les Français ou les Italiens sont dans la rue en gueulant, tout le monde s'en fout.
Ouais. Mais quand c'est les Allemands, c'est un peu plus
Allemands,
de poids.
Ça agace les gens comme ça. Les gens disent, oh là, c'est aussi égal en Allemagne, c'est que ça ne va pas aller du tout. Mm. Donc vous voyez aujourd'hui que, grosso modo, on pourrait passer, attendez, j'essaie de dire ça, j'ai plus mes yeux d'il y a 20 ans, mais on est à 186, je crois, là-haut.
On est à 168,
pardon, je suis un peu le dyslexique. Et normalement, la parité du pouvoir d'achat, c'est 120. Donc, je me dis, bon, si je suis à partir d'un portefeuille européen, il est probable que la ligne noire va retourner, la ligne noire et la ligne jaune vont retourner vers la ligne pointillée, qui est la parité du pouvoir d'achat. Donc, on va se faire aller à ce 120 moins 168, ça fait donc 48. 48 sur 168, ça veut dire qu'on va gagner un petit 40%, quoi, ça. Et si on n'est pas pressé, si on n'est pas en levier, si on ne s'est pas mis en position spéculative, on peut dormir dessus tranquille, parce que ça reviendra un jour à la ligne pointillée. Mm-hmm. Malgré ce que disent les spécialistes français de Roland-Garros. Ils sont complètement nuls. Bon, mais ça, c'est pas nouveau. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que c'est donc ce que j'essaye de faire dans le portefeuille, pour que vous compreniez bien la façon dont il faut raisonner, enfin, dont je raisonne moi, c'est ça. C'est que j'avais une position défensive qui a bien fonctionné pendant 4 ans qui n'ont pas été faciles. Hein. Et je me dis maintenant, cette position défensive, elle est moins défensive parce que elle a fonctionné justement. Les taux d'intérêt ont baissé, la monnaie est montée. Bon. Donc je sors de cette position défensive, et comme j'ai encore plus la trouille qu'il y a 4 ans, je me mets dans un machin qui est encore moins volatile, c'est à taux de change, qui est déjà à 3 ou 4 écarts types sous-évalués. Et je vais attendre avec du cash là, voir ce que font les marchés. Si par hasard ils se pètent la gueule, je vais pouvoir acheter avec ces yens qui sont sous-évalués.
Est-ce que tu crois que le yen peut... Alors, il a baissé il y a 3 jours, on est le 29, donc est-ce que tu penses qu'il peut encore baisser là par rapport à sa position ?
Tant que Matin Guantanamo continue à foutre du pognon à l'extérieur, mais je te dis, à un moment, le pognon qu'elle fout à l'extérieur commencera à être inférieur au pognon qu'elle récupérera. Et à ce moment-là...
Il faut juste, encore une fois, donc attendre au moins 5 ans.
Ça peut être fait l'an prochain.
Oui, regarde, ça peut être fait l'an prochain, mais tu pourrais devoir attendre 5 ans.
Oui, mais en attendant, oui, c'est possible. C'est possible. C'est pas du tout un coup de training. C'est un coup d'investissement. Je sais que d'habitude, si tu regardes ce graphique, donc, avec le yen et le Deutsche Mark, ben, tu vois que, en principe, ça prend à peu près, en effet, de 98, mettons, de 2000 à 2006, ça fait 6 ans. Puis ensuite, tu as un autre, c'est de 2008 à 2000. Les hausses du yen ont l'air d'être assez brutales. Donc, tu vois, oui, en effet, ça prend 4-5 ans chaque fois pour revenir
À
la moyenne. Mais si tu fais 40% en 5 ans, ça te fait à peu près du 7% par an. Bon,
sachant que cette position n'est que sur un tiers du portefeuille.
C'est que sur un tiers du portefeuille. Mais je sais que si les marchés se pètent la gueule dans le monde entier, Madame Watanabe, qu'est-ce qu'elle va faire?
Elle va rapatrier son pognon.
Et elle va surtout cesser d'en envoyer pendant que ça se pète la gueule.
Évidemment.
Donc, à ce moment-là, si tu veux, dès que les marchés pètent la gueule, le yen va monter comme une fusée. Alors, c'est-à-dire que c'est une position.
Tu pensais aussi que la Banque du Japon.
Allait peut-être intervenir un jour.
Oui, elle allait peut-être intervenir un jour parce qu'il y a un moment où pour les relations internationales.
Les Allemands, ils doivent être ivres de rage.
Ils essaient de maintenir leur inflation. On est dans un euro qui leur donne assez peu de marge de manœuvre. Comment veux-tu exporter de la voiture allemande quand tu as une voiture japonaise sous-évalué, sachant qu'aussi dans tout ce qui est
chimie
et ainsi de suite, ils sont en contact.
L'économie allemande et l'économie japonaise, c'est quasiment les mêmes. C'est la chimie des produits spécialisés, c'est les bagnoles, c'est les matériels de transport, ils font pas d'avion, donc grosso modo, c'est la même économie. Mais il y en a une qui vend son McDonald's moitié moins cher que l'autre. Alors, est-ce que vous croyez que les clients vont aller bouffer?
Sachant que, en plus, un produit japonais de nos jours est un bon produit.
La Toyota, c'est la voiture qui tombe le moins en panne dans l'histoire. Ouais. C'est absolument extraordinaire. Une Toyota, c'est là, si tu veux, tu peux. D'ailleurs, t'as qu'à voir, dans tous les pays du monde, maintenant, les taxis sont des japonais.
En Afrique aussi, il y a beaucoup.
En Afrique, bien sûr, ils ont complètement remplacé les Peugeot. Les
Peugeot, il n'y en a plus. Il n'y a plus que des Toyota partout.
Il n'y a plus que des Toyota ou des Nissan.
C'est vrai. Qui
est aussi une bonne voiture, il n'y a pas à dire. C'est... Donc, la première des choses, c'est donc on change ça, et ça vous amène à un portefeuille qui va être extraordinairement défensif. C'est-à-dire que vous serez 17% en or et 33% en cash. On peut difficilement être plus défensif que ça, quoi.
Et donc, quand ça sent le renard, ça sent le renard.
Aujourd'hui, et surtout, si tu as un truc défensif, qui a un potentiel de hausse de 40% sur 4 ans. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai à m'embêter sur les actions qui sont chères aujourd'hui? Je vais aller me mettre dans ce truc-là et je vais attendre tranquille. Quoi. Donc...
À propos des actions, petite aparté, mais vous avez vu cette semaine que, conformément à ce qu'on annonçait, Total, qui est avec BlackRock, va sortir de la Bourse de Paris.
Peut-être, ils disent qu'ils y réfléchissent.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils en ont assez que des crétins chevelus viennent leur expliquer qu'on doit taxer les hyper-profits, n'est-ce pas? Et donc, c'est un peu un coup de semonce en disant « continuez à nous casser les pieds et on se barre là-bas ». Et l'étape d'après, dans ces cas-là, c'est de aussi bouger le siège social et de faire un conseil d'administration et tout le monde part au Luxembourg. Donc, encore une fois, voici l'illustration en devenir de ce que ces crétins chevelus nous amènent constamment, c'est-à-dire au final de dire « il faut taxer tout le monde, il faut taxer les hyper-profits, il faut taxer Total », qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent du pays et vous vous retrouvez marron avec rien du tout.
Parce qu'il
ne
faut pas oublier que dans cette position extérieure nette de la France qui est négative, on a un coup de peau absolument extraordinaire que j'ai souvent signalé ici.
C'est nos fleurons.
C'est nos fleurons. On a une vingtaine de sociétés qui ont compris que la France, c'était quand même pas l'endroit où il fallait investir. Donc, Schneider, Air Liquide, tous ces gens-là, et ça fait des années qu'ils investissent à l'étranger et qu'ils rapatrient les dividendes en France. Quel est le plus gros actionnaire de Total aujourd'hui? Je sais pas si vous le savez.
Je crois que c'est BlackRock.
Non, le plus gros actionnaire de Total, c'est le personnel qui travaille chez Total.
Ah, ils sont...
17% du capital est détenu par le personnel.
C'est bien ça.
Bah, surtout, ça veut dire qu'il y a des Français qui sont à la retraite, etc.
Qui sont très contents d'avoir des hyper-profits.
Merci pour eux.
Mais ils ont bossé toute leur vie et ils sont intéressés aux bénéfices. Ma foi, je trouve ça normal.
La meilleure façon d'être intéressé aux bénéfices, c'est de devenir actionnaire. Personne ne vous empêche, si vous trouvez qu'LVMH gagne trop d'argent, d'acheter LVMH et de vous mettre...
Avec les autres super-profits.
De bénéficier des super-profits.
Et de vous gratter la couenne.
Et sur, à la plage, en regardant les autres qui ne peuvent pas se payer la plage. Donc,
c'est comme ton copain qui disait acheter un yacht, c'est pas difficile, tu mets un ciré, tu te mets sous une douche froide et tu déchires des billets de 500.
C'est exactement ça, acheter un yacht, c'était à peu près ça, oui. Donc il y a aussi autre chose, c'est ces crétins chevelus dont parle ma chère fille. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'ils ont comme grande idée? C'est de taxer les transactions financières. Alors, on va taxer les transactions financières.
Alors,
à Paris.
Je veux te rassurer, c'est une idée de crétin amplement répandue, de droite comme de gauche.
Voilà,
J'ai encore vu un républicain cette semaine, dont j'oublie le nom, je ne sais plus qui c'est, nous dire qu'il faut taxer les transactions financières.
Voilà, donc ces crétins s'imaginent que... ça revient toujours à la même chose, c'est d'empêcher les gens de bouger.
Mmh.
C'est, là, tu veux empêcher les gens d'utiliser... S'ils bougent, tu les taxes.
Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils instillent cette idée contre laquelle on essaie de revenir, que la bourse, ça serait caca.
Oui,
tu dis, mais enfin, la bourse, ça n'est jamais qu'une façon pour des entrepreneurs de demander des actifs.
C'est-à-dire et ça plutôt permet à la population de participer
de
au
participer
travail.
De participer à l'économie réelle. Et toi, quand tu es un entrepreneur, qu'est-ce que tu fais? Tu montes sur le haut de ton toit, hein, c'est l'équivalent, et tu dis, voilà, j'ai besoin qu'on me fasse un prêt. C'est ça, la bourse. Mmh. Plutôt que d'aller voir une banque qui va vous mettre un taux d'intérêt et qui va vous coûter cher. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, voilà.
J'ai besoin de capital.
Devenez
propriétaire.
Devenez propriétaire, je vous donnerai une action. Alors les gens arrivent, puis donnent leurs sous, ils disent, ah ben, je repars avec une action. C'est ça, la bourse. Je sais pas pourquoi on en fait tout un plat.
Mais si, imaginons que la crétinerie continue en France, qui est assez probable compte tenu du fait que ça fait...
Du personnel politique, surtout.
Et si vous avez 50 ans qu'on nous enseigne des bêtises à l'école aussi, on met une taxe de 0,1% sur les transactions à Paris. Je vous signale que Total est également coté à New York.
Nasdaq.
Non, je crois que c'est au New York Stock Exchange. Et donc... À ce moment-là, et 60% des transactions sur Total aujourd'hui se font à New York et pas à Paris. Donc à ce moment-là, dès qu'ils mettent une taxe de 0,1% à Paris,
tu l'achètes là-bas.
Ben, 100% des transactions auront lieu et on pourra fermer les maisons de titres en France. Donc bravo les mecs, continuez.
Non mais c'est parce qu'ils ont jamais, ils ont aucune idée de ce dont ils parlent. Encore une fois, là on n'est même pas sur des commentateurs de Roland Garros, on est sur des mecs qui
au café qui parlent du match de foot.
Qui parlent, voilà. Donc là, on est sur encore un autre niveau. Oui, c'est
mais
des
c'est
mecs qui ne s'intéressent pas au tennis, n'ont jamais parlé de tennis, ne font que du foot, mais vont te mettre des règles de tennis.
Mais trouvent quand même que les joueurs de tennis sont trop payés.
Voilà, et que le match ça devrait pas être compté 15 par 15, on va refaire les règles. Je te dis mais de quoi tu me parles? Tu sais même pas de quoi tu parles.
Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que autrefois, quand j'étais jeune en France, il y avait des gens compétents du style de, je sais pas, Raymond Aron, François Revel, etc., qui, quand la presse de gauche ou les gens de gauche disaient trop de bêtises, les ramenaient à la raison, si j'ose dire. Il y avait un peu la statue du commandeur, on s'arrêtait de dire des bêtises.
Non, mais là, il y a trop de boulot.
Mais là, il n'y a plus personne qui comprend quoi que ce soit, et ils raisonnent tous en c'est bien ou c'est mal. Mais c'est pas ça la question, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Ben oui, ça marche. Si vous voulez avoir été un actionnaire de Total ou de LVMH depuis 10 ans ou d'Air Liquide, ben oui, ça a très très bien marché pour vous, merci. Et vous le devez à personne. C'est vous qui avez décidé d'investir et vous avez ces crétins qui sont payés par l'État, qui soutiennent avec bonheur le Venezuela, Cuba, etc., tous les gens crèvent de faim, qui vous disent, on va monter un système comme le Venezuela et Cuba, où vous crèverez de faim aussi. Et c'est ces gens-là que vous écoutez. Mais il faut les... Je ne dis pas qu'il faut leur interdire de parler, parce qu'il ne faut jamais interdire à un connard d'ouvrir sa bouche, parce qu'à ce moment-là, il se signale comme connard tout de suite. Mais c'est quand même très étonnant de voir que ces gens-là parlent et qu'on les écoute.
Mmh.
Il y a des gens qui les écoutent.
Mais encore une fois, je pense que ça, c'est parce qu'on est passé dans une société où on était dans une société du logos et une société de l'éthos, où on essayait de réfléchir, à une société entière de pathos. Donc tu as des gens qui arrivent et qui disent, voilà, je veux le bien de la population parce que je suis gentil, donc ABCD avec toute une série de trucs complètement crétins. Et tous les gens disent, bah oui, mais regardez, il est très gentil, il a quand même dit qu'il aimait tout le monde. Ouais. Et parce qu'ils sont de gauche, parce qu'ils se revendiquent, tu comprends, moi, je n'aime pas les gens qui sont affamés et qui pleurent. Moi non plus, j'aime pas les gens qui sont affamés et qui pleurent. Simplement, j'ai le pragmatisme de dire, bah oui, mais moi, je sais comment ça marche, c'est pour ça que je fais ça. Mmh. Je fais pas ça parce que j'ai envie de vous torsionner.
Ce que disait Saint Paul, qui est quand même un peu à l'origine de l'école de l'Église catholique et de la chrétienté d'ailleurs. Il disait, celui qui ne veut pas travailler et qui peut travailler ne doit pas avoir accès à de quoi bouffer. Donc, il y a dans cette société chrétienne, celui qui ne travaille pas, enfin qui ne cherche pas à travailler et à devenir indépendant, dans le fond, il a droit à rien. Mais aujourd'hui, on est dans une situation absolument extraordinaire, où, pour revenir encore une fois à la parabole des talents que j'ai expliquée 10 fois, vous savez, le bon serviteur, on lui donne à la fin de la période, il avait mis 4 talents, on lui en rend 4 de plus, donc, puis le deuxième, il en avait mis 2, on lui en rend 2 de plus, puis le troisième, il l'avait enterré, et on en va en enfer. Ben, dans nos sociétés, celui qui a le droit à la parole aujourd'hui, c'est celui qui enterre son talent. Notre société est gérée pour et par ceux qui sont des passagers clandestins, qui n'amènent aucune valeur, qui ne créent rien, mais qui sont furieux et veulent prendre la valeur créée par les autres. Eh bien, je peux vous annoncer un truc, hein, c'est que ce genre de société, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Tu peux pas avoir des passagers clandestins partout.
De toute façon, on est en train d'être absolument pris à la gorge par le montant de nos transferts sociaux. Oui, là, la loi de finances est en train d'être discutée à l'Assemblée. Les mecs sont très heureux en disant, vous vous rendez compte, on a réussi à dégager 20 milliards. Parce que je dis, mais les gars, de quoi vous me parlez? Vous avez des budgets qui sont pas à l'équilibre, il y en a, et ça continue. Et combien de temps ça va encore durer avec une charge de la dette qui n'est...
Ben, le meilleur moment, c'était quand Jospin était au pouvoir. Donc ça devait être à la fin des années 90, il y avait eu d'amélioration de l'économie, l'économie boomait un petit peu à la fin des années, vers au début des années 2000, là c'était la bulle internet, et on avait dégagé un petit peu de pognon, et on a appelé ça la cagnotte. Notre déficit était plus faible que prévu, et ils ont tous gueulé pour qu'on dépense la cagnotte. Parce que d'un seul coup, à la place d'avoir un déficit de 50 milliards d'euros à l'époque, j'en sais rien, il avait fait 45, tu vois. Donc on s'est dit, au poil, les gars. Et tu te dis, mais dans quel monde vit-on, quoi? Et voilà, donc ce que j'essaye donc de faire dans ce portefeuille, c'est de vous dire tranquillement, vous avez cette chance incroyable de vivre dans un pays qui est sympathique, bien qu'il soit géré en dépit du bon sens. Et vous avez la possibilité, à cause des technologies modernes, d'investir votre épargne où vous voulez. Par exemple, aujourd'hui, rien ne vous interdit de mettre 100% de votre épargne en Suisse.
Il faut juste le déclarer.
En obligation suisse, en action suisse, etc. Et puis voilà. Et comme vous ferez très très peu de transactions, ben, vous aurez très très peu de gains en capital ou de pertes en capital. Donc, le côté fiscal perd un peu de son importance. Sauf s'ils se mettent à mettre une taxe sur le riche. J'ai vu que l'OCDE, ou je sais pas quoi, disait que pour régler les problèmes budgétaires, il fallait mettre un impôt de 2% sur la richesse.
Je pense que mon rapport avec le fisc suisse fait qu'ils sont assez souverains et qu'ils ont l'intention de négocier avec chacun. Et surtout les impatriés, la façon dont on doit gérer. Donc voilà, ça m'étonnerait que les Suisses se laissent tailler une croupière sur leur souveraineté parce qu'ils sont très attachés à cette dernière.
Et puis en plus, c'est le peuple qui vote à chaque fois pour les abandons de souveraineté.
C'est la souveraineté, donc...
Donc vous serez plutôt mieux protégé en Suisse qu'en... Donc si vous avez des Nestlé et des obligations suisses, ben, votre épargne ne dépendra pas des corneaux à Paris, votre niveau de vie dans 20 ans... mais dépendra de Nestlé et des obligations suisses. Donc, il faut que vous mettiez dans la tête que vous sortez de cette espèce de boîte infernale dans laquelle on vous force à investir avec des ESG, etc., intellectuellement, et que vous mettrez votre épargne là où vous voulez. C'est-à-dire que vous enlevez l'espèce de carte forcée que le gouvernement vous force à avoir, en disant, vous pouvez mettre votre épargne là, mais pas là, etc. Vous mettrez votre épargne là où vous voulez. Et ça, c'est essentiel. Donc, encore une fois, c'est l'université de l'épargne, c'est un truc qu'on essaye de construire pour vous aider à être libre, mais libre individuellement. Et donc, à ce moment-là, faites-moi plaisir, quand vous aurez bien compris tout ça, vous cessez de lire Le Monde, vous cessez de lire Le Nouvel Observateur, vous cessez de lire Libération, et vous demandez à ce qu'on supprime les subventions à ces gens-là.
Le problème, c'est qu'il reste les télévisions où tu as tous les Thomas Porcher, Piketty et compagnie qui continuent de nourrir les gens avec des idées aussi sottes que grenues
Elles sont sottes, elles sont grenues, et elles te font mal. C'est-à-dire,
oui,
quand tu les écoutes, tu te sens haineux. Enfin, les gens qui m'écoutent, je pense pas que je dise quoi que ce soit d'haineux, jamais. Juste c'est des gros cons, mais je leur en veux pas, parce qu'ils sont nés comme ça, quoi. Donc, c'est un effort d'éducation, mais c'est aussi un effort littéralement moral, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est ce que disait Chateaubriand, je l'ai déjà cité souvent, mais je vais le refaire, il faut être économe de son mépris en raison du grand nombre des nécessiteux. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont... Vous n'en avez pas la peine de les écouter. Les mains, Catali, tout ça, ça sert à rien. Vous les laissez déblatérer dans leur coin. De toute façon, plus personne ne les écoute. Et vous vous consacrez à vous améliorer, vous. Le plus gros investissement que vous pouvez faire quand vous allez gérer votre épargne, c'est que vous allez vous améliorer, vous. C'est un investissement en vous-même que vous faites. C'est pas un investissement dans des sociétés. C'est en apprenant à gérer votre épargne, vous deviendrez plus intelligent, meilleur et meilleur citoyen. Voilà. Pour moi, c'est ça l'idée de base.
Voilà, ben je pense qu'on a fait un joli petit tour, encore une fois, de la gestion de votre épargne au travers du portefeuille, pour l'instant, de l'idéal et qui deviendra celui de l'Université de l'Épargne. On a probablement pris un petit peu de retard, donc on vous tiendra informé de la façon dont ça évolue.
C'est un gros boulot.
Un gros boulot et j'y travaille énormément.
Trois et demi ou quatre et le chien qui fout rien.
On n'est pas aidé.
On n'est pas aidé.
Voilà. Mais écoutez, merci encore de nous suivre. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des likes, à en parler autour de vous. Et on vous dit avec grand plaisir à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.